Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Psychopharmacologie essentielle ». Bazès neuroscientifique et applications pratiques, dans sa 4e édition française, est un manuel de référence consacré au lien entre neurobiologie, psychopathologie et traitements médicamenteux. L'ouvrage adopte une démarche pédagogique, il part des mécanismes de la neurotransmission et des cibles pharmacologiques, puis les relie au grand tableau clinique rencontré en psychiatrie et en neurologie comportementale. Sa finalité n'est pas de fournir une simple liste de médicaments ou de protocoles, mais d'expliquer pourquoi une classe thérapeutique peut modifier certains symptômes, produire des effets indésirables ou échouer chez un patient donné. Cette édition renforce notamment l'intégration des neurosciences dans les chapitres cliniques et actualise plusieurs domaines, dont les psychoses, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, la démence et les addictions. Abondamment appuyé sur des schémas, le livre rend abordable des notions complexes de physiologie, de physiopathologie et de pharmacologie. Il se situe ainsi à l'interface de l'enseignement médical, de la pratique psychiatrique et de la compréhension mécanistique des traitements. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de la synapse aux symptômes, une lecture mécanistique de la neurotransmission. Le socle du livre est l'étude de la neurotransmission chimique, qui permet de comprendre la logique commune à des médicaments pourtant destinés à des troubles très différents. Les neurones communiquent par la libération de messagers chimiques, leur fixation sur des récepteurs, leur recapture par des transporteurs et leur dégradation par des enzymes. Chacune de ces étapes peut devenir une cible thérapeutique. Cette présentation évite de réduire la psychopharmacologie à des étiquettes telles que antidépresseurs ou antipsychotiques, une même molécule peut agir sur plusieurs systèmes, tandis que deux médicaments d'une même classe peuvent différer par leur profil de liaison et donc par leurs conséquences cliniques. Le raisonnement proposé relie aussi les effets immédiats sur la transmission synaptique aux adaptations plus lentes des réseaux neuronaux, importantes pour comprendre le délai de certaines réponses thérapeutiques. Les schémas ont ici une fonction structurante, car ils visualisent le passage entre événements moléculaires et modifications fonctionnelles. Cette base est indispensable pour interpréter la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine ou d'autres médiateurs sans les traiter comme des explications simplistes de maladies complexes. Le lecteur apprend plutôt à raisonner en termes de circuits, de cibles et de profils pharmacologiques. Deuxièmement, récepteurs, transporteurs, enzymes et canaux ioniques comme cibles thérapeutiques. L'ouvrage distingue avec précision les principales cibles pharmacologiques et montre pourquoi cette distinction a des implications pratiques. Un médicament qui bloque ou stimule un récepteur ne produit pas le même type de modulation qu'un produit agissant sur un transporteur ou sur une enzyme de dégradation. Les récepteurs peuvent en outre être situés avant ou après la synapse, appartenir à des sous-types différents et être couplés à des mécanismes intracellulaires variés. Ces éléments expliquent qu'un effet recherché puisse s'accompagner d'effets périphériques, cognitifs, moteurs, métaboliques ou sédatifs. Le chapitre consacré aux canaux ioniques complète cette vision en rappelant que l'excitabilité neuronale dépend également des flux d'ions et de la stabilisation des membranes. Cette dimension éclaire notamment la place de certains traitements dans la régulation de l'humeur ou dans des situations où l'hyperexcitabilité des réseaux importe. L'intérêt pédagogique est de fournir une grille de lecture transférable face à une molécule. Le lecteur peut se demander quelle cible elle atteint, dans quels circuits elles sont exprimées et quelles conséquences cliniques sont plausibles. Cette approche favorise une prescription raisonnée et une meilleure anticipation des compromis entre efficacité, tolérance et adhésion au traitement. Troisièmement, psychose et antipsychotiques, articuler circuits dopaminergiques et décisions cliniques. La révision importante consacrée aux psychoses et aux antipsychotiques constitue un axe distinctif de cette édition. Le livre examine la schizophrénie et les états psychotiques en évitant de les ramener à un unique déséquilibre chimique. La dopamine occupe une place centrale dans l'explication pharmacologique, mais elle est envisagée dans le cadre de circuits et de dimensions symptomatiques diverses. Cette prudence est essentielle, les symptômes dits positifs, les difficultés cognitives. Les symptômes négatifs et les troubles fonctionnels ne répondent pas nécessairement de façon identique au traitement. L'analyse des antipsychotiques met donc l'accent sur le rapport entre mécanismes d'action, bénéfices attendus et risques de tolérance. Les effets extrapyramidaux, la sédation, les conséquences métaboliques ou endocriniennes ne sont pas des détails annexes. Ils participent directement au choix du traitement, à la continuité des soins et à la qualité de vie. Le livre permet ainsi de comprendre pourquoi la sélection d'un antipsychotique ne peut se limiter à son appartenance à une génération donnée. La question pertinente devient celle de l'adéquation entre le profil du patient, les symptômes prioritaires, les traitements associés et les effets indésirables à surveiller. Cette logique relie les données neuroscientifiques à la réalité de la prescription psychiatrique. Quatrièmement, humeur, anxiété. Sommeil et douleur dépassaient les frontières entre diagnostics, les chapitres sur les troubles de l'humeur, les antidépresseurs, les thymorégulateurs, les troubles anxieux. Le sommeil et la douleur chronique montrent que les psychotropes sont utilisés dans des cadres cliniques qui se recoupent partiellement. Un même système de neurotransmission peut intervenir dans la régulation de l'humeur, de l'éveil, de l'anxiété et de la modulation de la douleur, sans que cela implique une identité entre ces troubles. Le livre aide donc à distinguer un mécanisme pharmacologique d'une indication clinique. Les antidépresseurs, par exemple, ne sont pas présentés comme une réponse uniforme à toute souffrance psychique, leur profil d'action, leur délai d'effet. Leurs interactions et leur tolérance doivent être rapportées à une situation diagnostique précise. La place des thymorégulateurs souligne de même la nécessité de penser la polarité de l'humeur et le risque de déstabilisation plutôt que de viser seulement une amélioration symptomatique immédiate. L'inclusion de la douleur chronique rappelle enfin que certains traitements agissent sur des voies partagées par l'expérience affective et la modulation nociceptive. En rapprochant ces domaines, l'ouvrage donne des repères utiles pour comprendre les comorbidités fréquentes, sans effacer les différences entre indications. Objectifs thérapeutiques et modalités de surveillance. En dernier lieu, TDAH, démence et addiction, une psychiatrie pensée par dimension et endophénotype. Cette quatrième édition actualise des domaines où les avancées diagnostiques et neurobiologiques ont modifié les repères cliniques. Pour le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, elle expose notamment le rôle de la dopamine et de la noradrénaline ainsi que les nouveaux traitements. En reliant l'action sur ces systèmes aux fonctions attentionnelles et au contrôle comportemental. Le chapitre sur la démence intègre les nouveaux critères de la maladie d'Alzheimer et la place des biomarqueurs dans la démarche diagnostique. Cela souligne une limite importante de toute approche médicamenteuse, la qualité du diagnostic et la définition du processus pathologique conditionnent l'interprétation d'une réponse au traitement. Le remaniement relatif à l'impulsivité, à la compulsivité et aux addictions élargit encore la perspective. Ces phénomènes peuvent traverser plusieurs diagnostics et impliquent des mécanismes de renforcement, de contrôle inhibiteur et de recherche de récompense qui ne se superposent pas parfaitement. La notion d'endophénotype, également rapprochée des Research Domain Criteria, sert ici à penser des dimensions de psychopathologie présentes dans différents syndromes. Le livre ne remplace pas les catégories diagnostiques par ces dimensions, mais montre l'intérêt d'une lecture complémentaire pour relier symptômes, circuits et stratégies pharmacologiques. En conclusion, ce manuel s'adresse en premier lieu aux étudiants en médecine, en pharmacie, en psychologie clinique ou en neurosciences qui doivent acquérir des bases solides en psychopharmacologie. Il est également pertinent pour les internes, psychiatres, médecins généralistes impliqués dans le suivi de patients traités, infirmiers spécialisés et autres professionnels souhaitant mieux comprendre la logique des prescriptions. Son bénéfice principal est de transformer des connaissances souvent fragmentées en un raisonnement cohérent, identifier une cible, situer son rôle dans un circuit, anticiper un effet clinique et tenir compte des limites liées à la tolérance ou à l'hétérogénéité des troubles. Cette démarche favorise une lecture plus critique des classifications de médicaments et réduit le risque de confondre mécanismes biologiques, diagnostiques et décisions thérapeutiques. Par rapport à un abrégé de prescription, l'ouvrage se distingue par la profondeur de son ancrage neuroscientifique. Par rapport à un traité strictement théorique de neurobiologie, il conserve un lien direct avec les situations cliniques, les classes de psychotropes et leurs effets indésirables. La richesse des schémas et l'organisation allant des mécanismes fondamentaux aux applications rendent ce volume particulièrement utile pour réviser comme pour consolider une pratique. Sa densité suppose toutefois une lecture attentive, il s'agit davantage d'un outil de compréhension et de formation qu'un substitut aux recommandations actualisées, au jugement clinique ou à la surveillance individualisée des patients. Si vous souhaitez soutenir New Verzily Press Cambridge, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.